Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une lutte contre le temps, d'une urgence face à la mort, celle des militants d'ACT UP. L'histoire de ces combattants est revenue sur le devant de la scène en mai dernier à Cannes, lors du festival, grâce au film intitulé 120 battements par minute de Robin Campillo. Sous le regard du cinéaste, la chronologie des faits se bouscule, mais tout y est dit. La fureur de vivre, les matins avec les médicaments, les réunions hebdomadaires de l'association ACT UP, la lutte contre les labos, contre l'église, contre l'État. Dans la première partie de l'émission, nous reviendrons sur le début de cette association, ses premières années de 1989 à 1996, un temps où l'usage du préservatif n'était pas automatique, loin s'en faut, et où la peur, la panique même, a précédé la solidarité, où les malades étaient oubliés en ces temps maudits, où l'acte d'amour, la sexualité libre et choisie, a débouché tant de fois sur le drame, alimentant au passage une homophobie encore vive dans la France des années 80. Raconter l'histoire d'ACT UP, c'est donc raconter l'histoire du sida, un récit politique, social et médical, le marqueur d'une génération, celle des séropos, pris dans l'urgence d'une mort qu'on leur assurait prochaine. En deuxième partie d'émission, nous recevons Christophe Marté, journaliste pour Ornet. Il a surtout été le président d'ACT UP de 1994 à 1996. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzeau, qui a assisté à la réunion hebdomadaire d'ACT UP jeudi dernier. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
L'histoire du sida commence en 1981. En juin, une revue américaine fait état de 5 cas de pneumonie grave et rare chez deux hommes homosexuels. L'article fait grand bruit en Amérique, comme dans le monde entier. Alors, sur l'ensemble de la planète, des scientifiques découvrent des malades aux symptômes similaires. En quelques mois, les chercheurs et les médecins cherchent à identifier le virus de ce mal inconnu. En 1983, il est identifié, on le nomme VIH, le sida. Acronyme de syndrome immunodéficitaire acquis, est le dernier stade de l'infection. Les premières années du VIH s'écrivent en direct avec leur lot de maladresses, d'extravagances, de peurs et de mythes, mais surtout de scandales, de faillites morales. Dans les médias, on le baptise un temps « cancer des gays » ou encore « la maladie des 4H » pour héroïnomane, homosexuel, haïtien, hémophile. Limité, à la marge, on pense à maladie à distance du corps social. L'État détourne le regard, tout comme les journaux homosexuels qui refusent de crier au loup. Et pourtant, l'étau se resserre. La mort emporte de plus en plus de personnes, la plupart dans le silence, certains dans les lumières comme Klaus Nemi, Roxson ou Michel Foucault en France. Selon les pays, l'attitude diverge. Mais peu à peu, chacun se lance dans la bataille avec plus ou moins de force. En France, il faut attendre l'année 1985 pour qu'enfin des premiers tests de dépistage soient commercialisés. L'année suivante, la ministre de la Santé, de l'époque Michel Barzac, fait adopter une loi qui autorise la publicité du préservatif. En 1987, elle signe un décret qui autorise la vente libre de seringues en pharmacie. Cette année-là, le sida tue en France 964 personnes, dont 127 femmes. Un an plus tard, ils seront 1384 à mourir, alors que d'autres continuent à lutter contre la maladie, comme ces deux témoins.
Depuis que j'ai le sida, je vois la vie tout à fait différente.
La plus grande solitude, c'est, je crois, la solitude affective, la solitude du corps de l'autre, de l'amour.
Je n'ai pas l'avenir, je ne me pose plus de questions, ça ne sert à rien parce que c'est un cassement de tête et je vais vers la dépression. Donc je vis le jour au jour.
Comment dire, comment faire, comment se déshabiller face à un corps jeune, face à un corps plein de vie.
Je ne vois pas, je sais que j'ai 37 ans, mais j'aurais pu avoir 50 ans, c'est pareil. Je n'ai plus de vie affective, je n'ai plus que, voilà, je suis seul. Et puis...
On n'est pas, on est sur un pont.
Je sais que c'est une maladie mortelle, que dans 6 mois je peux mourir, ça je le sais, une épée sur la tête et puis...
On est atteint, dedans, puis dehors.
C'est tout, je fais une raison et puis j'attends.
Avec le sida, une nouvelle communauté voit le jour, celle des séropositifs. Ils portent le virus, mais le sida ne s'est pas encore déclaré. On les appelle les porteurs sains. tout l'enjeu est de ralentir le processus. Mais apprendre sa séropositivité, c'est sentir la terre qui se dérobe sous ses pieds, c'est plonger dans l'indicible angoisse de ne plus se sentir protégé par les défenses de son propre corps, exposé à toutes les agressions virales, toutes les maladies. C'est découvrir une nouvelle vie, construire une nouvelle identité et bien sûr découvrir l'exclusion et ses ravages. L'exclusion de la société et celle des amis ou des parents qui vous quittent par peur ou par honte. De l'intime à la vie sociale, le sida emporte tout. Parmi ses victimes, il y a Didier Lestrade. Quand il découvre sa séropositivité, il n'a pas 30 ans. Il dompte la maladie aux États-Unis, à New York. Là-bas, il découvre les militants d'une association subversive, ACT UP. Avec eux, il comprend que le sida n'est pas seulement une lutte personnelle, mais qu'elle peut être collective, donc créative et efficace. L'une des premières actions médiatiques de l'association américaine est une incroyable manifestation où une foule de malades envahit Wall Street. Par ce premier fait d'armes, ACT UP réussit à faire baisser le prix de l'AZT, un premier antirétroviral qui, comme son nom l'indique, permet de ralentir la progression du virus. De retour en France, Didier Lestrade constate qu'aucun ACT UP ou association équivalente n'a vu le jour. Certes, des associations existent et accompagnent les malades, demandent de l'aide au gouvernement, mais elles restent sages, disciplinées. Pourtant, la maladie, elle, progresse et de plus en plus vite. En 1989, en France, le sida devient la première cause de décès chez les hommes entre 25 et 44 ans. Alors, avec deux amis journalistes, Pascal Loubet et Luc Coulavin, Didier Lestrade fonde ACT UP Paris. Et c'est le 24 juin 1989 que l'histoire commence officiellement.
Oh, l'équipe des bars, vous êtes merveilleuses, hein? Oh là là, vous êtes bien bien dans les bâtons.
Ce jour-là, dans le cortège de la Gay Pride, ils sont à peine une quinzaine habillés d'un t-shirt noir avec un triangle rose retourné et un slogan écrit en lettres blanches « Silence égale mort ». À deux reprises, ils s'allongent au sol sans dire un mot. Au premier son de corne de brume, ils se relèvent. Debout. Ça n'a peut-être l'air de rien, dit comme ça. Et pourtant, toute la philosophie de l'association se trouve là. Ils étaient à terre, silencieux, ils seront bruyants et vivants. Parmi les passants qui assistent à la scène, il y a Clius Valley, un jeune homme de 22 ans, séropositif, qui cherche lui aussi à vivre, coûte que coûte. Prolétaire, ancien pâtissier, il a travaillé dans un chenil avant de perdre à cause de sa séropositivité son travail. Était-ce légal, juste? Non, bien sûr. Mais pour beaucoup, et parce qu'il a été présenté comme ça, le sida est une sorte de nouvelle lèpre qu'on peut attraper par le simple toucher ou par la salive. Quelques semaines après la Gay Pride, Clus Bellet et d'autres militants rejoignent l'appartement de Didier, qui sert de premier lieu de réunion à l'association ACT UP Paris. Ensemble, ils définissent les principes de l'association. Que veulent-ils faire? Sortir les malades du silence. Comment? En braquant les projecteurs des médias lors d'actions symboliques et visuelles. Devant chaque erreur, chaque retard, chaque parole des pouvoirs publics, des associations, toute forme d'institutions qui vont à l'encontre des intérêts des malades du sida, il faut réagir. Oui, ne rien laisser passer. À la fin de l'année 89, pour la première fois, l'association perce le plafond médiatique. Le 1er décembre, une poignée de militants accroche sur Notre-Dame une banderole où est inscrit « Oui à la capote ». Alors que le préservatif est le moyen le plus efficace pour se protéger de la maladie et éviter sa propagation, le pape le met à l'index, ce qui démontre pour le moins une méconnaissance des modes d'emploi, mais plus sérieusement, un refus de regarder la réalité en face par dogmatisme et quel qu'en soit le prix. Et c'est bien ce que disent les militants de l'association. Jean-Paul II se rend ainsi co-responsable de l'essor de la maladie. Le sida n'est pas une tragédie personnelle, une épreuve du destin, ou pire, un jugement de Dieu face à la question sexuelle. Non, sa progression est le résultat de choix politiques. Pourquoi, en 1990, Paris est-elle la ville la plus touchée d'Europe avec plus de 5000 cas? Au micro de France Inter, Didier Lestrade répond.
Je crois qu'il y a une responsabilité directe du gouvernement là-dedans. Je crois que les autres gouvernements, vous allez en Angleterre ou alors en Allemagne, l'Angleterre et l'Allemagne ont commencé des campagnes de prévention beaucoup plus tôt et d'une manière beaucoup plus combative. Mais je crois qu'elles ont marqué quand même, elles ont fait prendre conscience à la masse, à beaucoup de gens qu'il y avait un réel danger, que on pouvait faire quelque chose et surtout que les gens pouvaient prendre des précautions, etc. pendant leurs relations sexuelles.
ACT UP ne se limite pas seulement aux actions médiatiques, aux ZAP, comme les militants les appellent. Non, toute action prend sa source dans un débat lors des réunions hebdomadaires ou au sein d'une commission. Dès la première année, plusieurs d'entre elles se mettent en place. La principale et la plus importante est la commission médicale. Dès les premiers échanges, tous se rendent compte qu'ils ne maîtrisent pas les mots scientifiques utilisés pour désigner le mal qui les ronge et qu'ils connaissent mal les différents stades d'évolution de la maladie. Comment reconnaître un Kaposi, cette tumeur cutanée qui recouvre votre corps de taches, symptôme du sida? Comment pratiquer de nouveau sa sexualité? Quel est le seuil d'alerte des lymphocytes T4? Quand on s'approprie la maladie, on n'est plus sa victime mais on devient une menace pour elle. C'est l'un des enjeux des premiers mois de la commission santé, de comprendre le vocabulaire médical et d'évaluer la situation des traitements à l'étranger. Ils s'abonnent alors à toute revue possible, française et américaine, et ils lisent, ils déchiffrent, compilent, puis on discute. Lors de leurs réunions, les malades parlent aussi de leurs expériences, des effets secondaires, des médicaments, des effets indésirables, des réussites comme des échecs, des traitements, des maladies dites opportunistes dont ils sont atteints. Ainsi, en quelques mois, ils constatent le retard d'accès de traitement en France. Alors, à chaque fois qu'ils en ont la possibilité, ils en appellent à l'État et au laboratoire.
Moi, j'entends sans arrêt des malades qui sont à l'association et qui me disent « on fait un traitement dans un placard, j'ai passé une demi-journée, mon lit était dans un couloir ». C'est pas si facile que ça. Moi, je voudrais plus de traitements. Moi, j'attends la DDC, j'attends l'Imutuol, j'attends plein d'autres traitements en France. Et ils n'arrivent pas, ils sont bloqués dans des tiroirs au ministère de la Santé. Qu'est-ce qui s'en occupe? Je veux dire, Jean-Paul Lévy, le directeur de la NRS, dit à tout le monde qu'il y a assez d'argent en France pour la recherche. Or, on est obligé de faire des appels pour les fonds privé, etc. C'est, il y a un mensonge. Et je crois qu'il faut que les gens se mobilisent, il faut que les gens descendent dans la rue, parce que je crois que c'est ce genre de pression qui fera avancer les choses.
Au début de l'année 90, la maladie va plus vite que l'administration, l'État et les laboratoires. Au début de chaque réunion hebdomadaire, avant l'ordre du jour, on annonce le décès de militants. ACT UP est né de cette urgence face à la mort qui emporte les proches et progresse dans le corps des autres. Rares sont les associations qui doivent gérer le deuil aussi quotidiennement. Chez ACT UP, la mort est présente partout, comme un spectre. Ce n'est pas un hasard si les militants décident, le jour de la Toussaint 91, d'organiser une nouvelle action à Notre-Dame de Paris. Ce jour-là, quelques-uns d'entre eux investissent les allées de la cathédrale. L'office commence, et puis l'un d'entre eux se met à scander ce slogan. Ils ne pourront crier leur colère que quelques minutes. Certains paroissiens, comme les vigiles de l'église, les rejettent avec violence. Est-ce pourtant un mal de se protéger d'un virus? Complice, l'église l'est-elle et le prouve-t-elle ce jour-là? Dehors, ils sont plus de 200 militants sifflés à la bouche, pancarte à la main, pour suivre l'action devant les caméras, prévenus d'opération. À 20h, les images sont diffusées dans chaque journal télévisé comme les slogans des militants d'ACT UP. Premier succès médiatique, qui en appellera d'autres? Peu à peu, en effet, l'association grandit et gagne en légitimité. ACT UP refuse de baisser la garde et s'active sur l'ensemble des problématiques liées aux maladies du sida. Dès les premières années, les militants accompagnent les personnels hospitaliers qui luttent contre les fermetures de services sida ou encore auprès des victimes de l'affaire du sang contaminé. Derrière cette affaire, un scandale sanitaire sans précédent, l'une des causes du nombre important de malades du sida en France. Pendant des mois, en effet, au milieu des années 80, alors que la menace est connue, le Centre National de Transfusion Sanguine distribue sciemment à des hémophiles des produits contaminés par le virus. Et tout ça, par souci de rentabilité économique face à la concurrence des labos américains. Ludovic est l'une de ses victimes. Il a 15 ans, il est devenu séropositif. Il n'a jamais eu de rapport sexuel, mais il sait désormais qu'il peut transmettre le VIH.
C'est poche. pas bien ce qu'ils ont fait, c'est même affreux, parce que il n'y a pas que moi dans ce cas-là, il y en a des centaines d'enfants, quoi, de jeunes de mon âge, il y a des gens qui sont morts, et c'est affreux, quoi. Ils savaient pourtant de tout ce qu'il y avait, les risques qu'il y avait dans ces médicaments, ils ont continué par avidité d'argent, je pense, à écouler ces stocks sans penser aux autres. Ils ont pensé à leur pied de personne, c'est tout. Voilà.
Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, maintenant ?
Ben, continuer à vivre, puis après on verra.
Comme d'autres militants d'ACT UP, Ludovic a cette bombe à retardement cachée dans le sang qui peut se déclarer à tout instant. Tout au long de l'affaire du sang contaminé, l'association sera là pour demander justice. En 1992, par exemple, ACT UP organise une action contre le docteur Habibi, directeur médical et scientifique du Centre National de Transfusion Sanguine, qui, malgré le scandale, exerce toujours. Le 15 mars, alors que celui-ci est invité à intervenir dans le cadre d'un colloque sur la sécurité transfusionnelle, les militants profitent de l'occasion pour monter sur scène, le menotter et recouvrir son visage d'un colorant rouge sang. La scène fera la une, comme les témoignages et la souffrance de Ludovic. Voilà, agir, parler, provoquer, en jouant avec les limites. Les actions sont parfois source de tension au sein de l'association, mais une chose les rassemble toujours. Le temps, ce temps qui presse, qui stresse, qui enrage les malades et qu'on cherche à rattraper, dépasser, vaincre. En quelques années, ACT UP s'est forgé la réputation d'une association turbulente et mouvementée. Qu'importe si ces actions, ces outrances, ces mises en accusation publique permettent d'alerter l'opinion et d'augmenter la pression sur les décideurs, alors ces actions sont utiles, voire précieuses. De l'hôpital à l'école, des agences de santé aux prisons. Par ces actions, ACT UP pointe les faillites de l'État en termes de prévention, de recherche, d'accompagnement, de droits et de dignité. Face à ces atermoiements, les militants s'activent de toutes parts et à toute heure. En avril 1992, ils organisent la journée du désespoir. Durant des heures, aux quatre coins de la capitale, les malades du sida envahissent les quartiers, les gares, les métros. À Barbès, ils distribuent des préservatifs. À la santé, ils tractent pour les prisonniers contaminés. Au Père Lachaise, ils taxent ces mots, séropositifs. Ici, l'État investit pour votre avenir. Près du Louvre, des cercueils défilent. Dans les fontaines publiques, l'eau prend la couleur du sang et le cri des militants résonne sur les avenues.
Sida, nos amis meurent, nous sommes désespérés. Sida, nos amis meurent, nous sommes désespérés. Sida, nos amis meurent, nous sommes désespérés.
Et ce jour-là, il dépose également une lettre ouverte au président Mitterrand où l'on peut lire ces mots.
Le sida est notre guerre, à défaut d'être la vôtre. Pour d'autres guerres, vous avez su dégager tous les moyens nécessaires sans perdre de temps. Nous avons souvent l'impression d'être des soldats qui, rentrant du front, trouveraient les civils en train de danser. À l'arrière, la fête continue. Et nous nous retrouvons plus seuls que jamais. Seuls avec nos cauchemars que personne ne veut apaiser. Nous avons peur de la mort de ceux que nous aimons. Nous avons peur de notre propre mort. Alors nous hurlons avant qu'il ne soit trop tard, parce que nous sommes en sursis. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être élégants, raisonnables et polis. La bienséance et la politesse sont l'apanage des bien portants.
Toulouse, quand on a tendance à dire qu'il y a un sida à deux vitesses, il y a un sida chic et un sida pauvre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Bah, c'est un peu vrai, il y a un peu le sida des intellectuels, des personnalités connues, dont on parle, surtout en phase terminale. Et puis il y a le sida des autres, c'est-à-dire le sida des ouvriers, le sida des gens qui sont dans la vie quotidienne, notre sida, quoi. Et là, c'est beaucoup plus dur d'en parler, on a du mal à en parler à son entourage, on n'a pas envie forcément de passer à la télévision. Moi, j'ai une conscience totale du fait que je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine ou si je serai là dans un an. Bien sûr, c'est ça ma réalité, c'est ça ma préoccupation première. On vit là-dedans complètement.
Après 3 ans passés à la tête de l'association, Didier Lestrade en quitte la présidence. Clouse Velez le remplace. Il était au début de l'aventure, il s'est occupé de la commission prison, mais aussi des actions spectaculaires. Il a 29 ans, Clouse, un visage d'ange, le corps déjà meurtri, radical, attachant, vivant. C'est sous sa présidence qu'Actup Paris fait la une du monde entier, justement, le 1er décembre 1993. Au petit matin, les Parisiens découvrent l'obélisque de la Concorde recouverte d'une capote rose géante. Clouse Velez se tient à côté d'elle, heureux du coup d'éclat, mais toujours en colère contre l'État qui tarde à sonner l'alerte et à protéger la jeunesse. Contre le sida, il n'existe qu'un vaccin, le préservatif.
La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut agir avec des gros symboles. C'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple, c'est sida, que cesse cette hécatombe.
Toute la journée, comme lors de chaque journée annuelle du sida, on a parlé du fléau. Mais le sida est-il en sommeil les autres jours de l'année ? Ainsi vont les journées de. Mais en un an, le nombre de nouveaux cas chez les hétérosexuels a augmenté de 25%. En 1993, en France, 28 497 personnes atteintes du sida sont recensées. Parmi elles, 16 331 sont mortes. En 1994, à New York, chaque jour, 188 personnes meurent du sida. L'hécatombe n'est donc pas une image ou un effet de langage, elle est réalité. Et pourtant, le gouvernement rechigne à faire de la prévention, notamment auprès des lycéens. Cela peut paraître étonnant aujourd'hui, mais au début des années 90, le préservatif est encore un objet sulfureux. Malgré le souhait mis en juin 92 par Jack Lang d'installer des distributeurs dans tous les lycées, moins de 50% des établissements s'en munissent. Pire, il faudra attendre 2006 pour que la mesure devienne enfin obligatoire. Le temps, toujours, celui des paroles, puis celui des faits. Malgré ces décès, quelques victoires sont remportées par les militants d'ACT UP. En 1993, après une ZAP Zone Fax, une action de matraquage téléphonique et d'occupation continue des fax, l'État acte la prise en charge à 100% des soins pour les séropositifs. Autre victoire dans laquelle ACT UP joue un rôle, l'organisation d'une soirée spéciale à la télé, par exemple. Le 7 avril 1994, pour la première fois de l'histoire du petit écran, l'ensemble des chaînes diffuse le même programme. L'émission est à l'image de l'époque, solidaire et divertissante à la fois. Sur le plateau, les présentateurs vedettes des différentes chaînes se succèdent, donnent quelques instants la parole au ministre, puis aux malades. Les témoignages sont entrecoupés de chansons et d'appels aux dons de stars. ACT UP accepte la règle du jeu. Jusqu'à minuit 20. En haut de la salle, en direct, ils scandent « Toxico oublié, toxico assassiné ». Oui, car depuis 1991, les toxicomanes représentent le plus grand nombre de nouveaux cas de sida en Europe. Alors, les drogués doivent-ils être oubliés ? Surpris, un peu fâché, mais surtout, pour stopper la manifestation improvisée, les présentateurs acceptent de passer le micro de l'artiste au porte-parole d'ACT UP.
Attends, Mimi, excuse-moi, il y a Clouse Velez qui vient de nous rejoindre, qui va peut-être calmer les camarades qui sont là-haut, car je promets que nous allons parler de la toxicomanie d'ici quelques instants. Cette soirée est longue, cette soirée est difficile pour tout le monde, soyez gentils, qu'on aille au moins jusqu'au bout.
Clouse Velez. Non, elle n'est pas difficile, on vous attend, vous inquiétez pas.
Clouse Velez.
Bon, le plateau toxicomanie est prévu dans 10 minutes, c'est vrai que ça va faire tard. Je pense que il est vraiment dommage de parler aussi tard de la toxicomanie. Les toxicomanes représentent 30% des personnes touchées. Je pense aussi à la communauté sourde, dont on n'a absolument pas parlé. Je pense aussi aux communautés ethniques qui vivent en France, les Maghrébins, les Africains, etc., dont on n'a absolument pas parlé pour l'instant.
Si on avait... C'est, ce que vous dites est vrai, vous savez comme nous, Klaus Vélez,
non, mais
que
c'est,
pour parler
c'est
de
ce
tout...
qui explique la colère des gens, c'est normal, il y a une émission, il y a cette émission qui réunit tout le monde, on essaye de... Effectivement, je sais que vous essayez de parler de tout, et qu'on a déjà largement débordé, mais c'est vrai qu'il est minuit et demi, et qu'on n'a toujours pas abordé les vrais problèmes, c'est-à-dire la toxicomanie, le problème sur l'échange de seringues, le problème sur la méthadone, etc. Et c'est le problème crucial aujourd'hui.
Je vous jure que d'ici quelques minutes, nous allons parler avec les personnes qui pourront s'exprimer à ce sujet. Mais comme vous dites, il y a beaucoup de sujets, et pour parler de tout, ce serait encore plus long.
Ce sera l'une des dernières interventions médiatiques de Klaus Vélez. À la suite de cette soirée, son état s'aggrave. Peu à peu, son corps baisse les armes. En septembre, il voit une dernière fois des amis lors d'une réunion hebdomadaire, assis, masque à oxygène sur le visage. Au début de la réunion, il entend le nom des disparus. Il sait sans doute que bientôt c'est le sien qui ouvrira la réunion. Le 18 octobre, Klaus Vélez meurt à l'hôpital Bichat. Voilà un an qu'il attendait l'allocation adulte handicapé. Il recevra l'accord plusieurs semaines après son décès. Est-ce la maladie qui était en avance ou l'État qui est toujours en retard ? La mort de Klaus est l'un des grands chocs de l'association Une blessure au cœur de l'histoire d'ACT UP. On l'appelait l'emmerdeuse. Souvent, en haut des gradins, il était l'un des montagnards d'ACT UP. Il était parfois insupportable, sûr de lui, mais il a offert à l'association ses plus grands coups et ses plus beaux cris. Quelques mois avant son décès, dans le journal de l'association, il parlait des traitements et des questions que se posent les malades chaque jour, jusqu'au dernier. Combien mourront avant moi ? Vais-je souffrir ? Serai-je conscient jusqu'au bout ? Vais-je continuer à avoir peur de toucher les autres ou que les autres me caressent ? À qui pourrais-je me confier, moi qui n'ose plus ? Philippe aura-t-il la force de me suivre jusqu'au bout ? Et ai-je le droit, la force, l'envie de le lui imposer ? Et qui s'occupera de lui après ? Et il conclut cet édito ainsi. Au fait, docteur, si demain vous me proposez des couettes pour durer encore un peu, bien je les prendrai jusqu'au dégoût parce qu'il faut bien l'avouer ici, j'ai envie de vivre, et pas seulement pour faire chier le monde. Abandonné par sa famille, ACT UP était devenu la sienne. Le 26 octobre, le jour de son enterrement, ils sont près de 500 à marcher du centre gay lesbien de Henri Keller jusqu'au Père Lachaise. La procession est tantôt bruyante, tantôt silencieuse. À l'entrée du cimetière, les cornes, les slogans et les larmes se mélangent. Triste époque où l'on meurt à 30 ans dans un corps de vieillard. Triste génération où l'on devient veuf en même temps que ses grands-parents. Malgré la tristesse et le choc, comme à chaque fois, ACT UP se relève. Le 1er décembre 1994, lors de la journée annuelle du SIDA, comme chaque année, les militants d'ACT UP décident une action symbolique. Après Notre-Dame, la Concorde, ils investissent et bloquent les Champs-Élysées. Au sol, ils s'allongent et ils crient.
Bloquez toute la rue, là ! Faut tout bloquer !
SIDA ! Épidémie hors de contrôle.
Les gouvernements se réunissent après 14 ans d'épidémie, après 2 millions de morts, après 17 millions de personnes contaminées et disent on a pris conscience de l'ampleur de l'épidémie, on a conscience qu'elle est grave. Mais combien de temps encore ils vont attendre avant de prendre les mesures pour essayer de juguler cette épidémie ?
SIDA ! Épidémie hors de contrôle.
Klaus n'est plus là, mais d'autres militants séraux, peau ou non, poursuivent le combat. Après sa mort, c'est Christophe Marté qui prend la charge de la présidence. Avec lui, ACT UP poursuit ses combats dans tous les domaines. Fin décembre 1994, ces militants profitent d'une rencontre de plusieurs assureurs pour manifester contre les discriminations dont les malades atteints du VIH sont victimes. Début janvier 1995, c'est la mairie de Paris qui est la cible d'une action quotidienne. Alors que sa ville est la plus touchée d'Europe, Jean Tibéri, le maire, tarde toujours à lancer des actions dans le domaine du logement, des soins, de la prise en charge sociale. Mais l'action sans doute la plus importante et symbolique de cette année-là est dirigée contre des laboratoires qui voulaient restreindre la distribution d'un antirétroviral. ACT UP profite d'une réunion où sont présents plusieurs laboratoires pour jeter dans la salle une partie des cendres de Klaus Vélez. Provocateur ? Non, il s'agissait simplement de tenir une promesse. En 1996, enfin, de bonnes nouvelles sont annoncées sur le plan scientifique. Lors d'un congrès à Washington, des chercheurs mettent en avant des améliorations significatives auprès des malades grâce à l'association de trois antirétroviraux. Avec ce qu'on appelle les trithérapies, les malades peuvent espérer gagner des années et du confort aussi. Fini les dizaines de pilules à avaler chaque matin. L'avenir s'éclaircit un peu. La mort promise s'éloigne. Pourtant, dès les premières semaines, les malades doivent de nouveau attendre pour cause de manque de médicaments. Face à la pénurie, le Conseil national du sida propose de recourir au tirage au sort. Tollé, manifestation, le gouvernement recule. Une nouvelle fois, le sida révèle les dysfonctionnements de l'État face à la maladie. 1996 marque aussi une autre tendance, celle d'un désintérêt de l'opinion pour les malades. En juillet, lors du second SIDAction, la récolte de dons dépasse à peine l'équivalent de 10 millions d'euros. Elle était 4 fois plus importante 2 ans plus tôt. Malgré quelques campagnes de prévention, les manifestations, les actions, les reportages dans les médias, pour une partie de la population, le sida est toujours une maladie honteuse. Après 7 ans d'existence, ACT UP n'a rien oublié, et surtout pas sa raison d'exister. Dès que l'occasion lui est donnée de prendre parti, d'alerter l'opinion, l'association s'y emploie. Comme le soir du 6 juin 1996, lors du SIDAction. Sur le plateau, le gouvernement a envoyé l'ancien ministre de la Santé, devenu ministre de la Culture du gouvernement Juppé, Philippe Douste-Blazy. Les militants d'ACT UP sont là, dont son président, Christophe Martet. En silence, ils enragent. Et puis, ils explosent.
Dites-moi, est-ce que vous allez enfin expulser...
Je vous réponds, je vous réponds.
Est-ce que votre collègue de l'intérieur va arrêter les expulsions de personnes malades atteintes de pathologies graves? On ne parle pas que du sida ici, on parle de toutes les personnes malades atteintes de pathologies graves.
Absolument. Eh bien, laissez-moi parler. Voilà. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, dans chaque département, les préfets, au cas par cas, regardent évidemment le problème des malades séropositifs. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour ne pas expulser des gens qui étaient malades. Et au cas par cas, département par département, j'ai demandé et nous demandons à des préfets
faire attention. Marie-Louise, et lundi, Marie-Louise est convoquée à la préfecture. Il y a un avion pour le Zaïre mardi. Si on n'est pas lundi avec elle à la préfecture, elle peut se faire expulser mardi. Elle a un gamin qui est malade, qui vit actuellement malade dans un hôpital français. C'est quoi ce pays de merde?
Oui, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. C'est pas bien. Hein.
Merci. Moi, je m'en vais. Vous êtes un assassin.
Pays de merde, certains ne retiendront que cette phrase. Les mêmes souvent y verront l'explication de la baisse des dons. Mais, enfin, est-ce juste d'expulser des personnes en situation irrégulière malades du sida? Pourquoi la prévention tarde-t-elle quand il s'agit des toxicomanes, des malades dans les prisons? Pourquoi la maladie est-elle en prime 1-2 fois par an, pas plus? Aujourd'hui encore, avec les trithérapies, la baisse des morts et le ralentissement des nouveaux cas, beaucoup pensent sans doute que le sida s'est terminé. C'est l'effet pervers du progrès dans la lutte contre la maladie, car si elle est désormais sous contrôle, on ne guérit toujours pas du sida, le mot fin n'est pas encore écrit, le virus est toujours là, comme une bombe à retardement.
Si c'est aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida née, elle est année d'amour. À mourir d'aimer, ils sont morts d'amour, d'amour sidané. Oh sida, sida, sida danger, sida. Oh sida, sida amour à mort. Oh sida, sida assassin recherché, aimé qui a mis l'amour. À mort, mon amour malade, ma douleur d'aimer, mon damné d'amour, sida, sida né, à vouloir t'aimer, d'amour à mourir, j'en mourrai peut-être, sida assassiné, oh sida, sida comme le furet, passez par ici, repassez par là. Oh sida, sida, assassin recherché, mais qui a mis l'amour à mort? On rêvait d'amour, et l'emmerde amour, sida, sidané, maladie d'amour, où l'on meurt d'aimer, seul et sans amour, sida abandonné, si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer. Sont mourus d'amour, sida, sidané, l'étalé d'amour, à vouloir s'aimer, ils sont morts d'amour, sida, assassiné.
France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire, le combat d'ACT UP avec notre invité Christophe Marté. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été le président d'ACT UP Paris entre 1994 et 1996 et vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé Les combattants du sida, sorti en 1993. On vient d'entendre Barbara. Ça vous a fait plaisir, je crois, pour des raisons évidentes.
Ça m'a fait très plaisir d'entendre Barbara puisque un jour elle nous avait appelé au local d'ACT UP pour nous proposer son aide, en fait, et elle nous a offert une chanson. Alors c'était pas celle-là, parce qu'elle l'avait écrite avant. Et elle nous avait offert une chanson qui a été mis en musique par Jean-Louis Aubert et effectivement, bon, elle nous a offert tous les droits d'auteur ainsi que Jean-Louis Aubert, donc ça nous a rapporté de l'argent, donc c'était important et voilà, c'était très concret, c'est-à-dire que c'était une aide très concrète de la part d'une grande dame.
Alors, quand et pourquoi entrez-vous à ACT UP? Comment vous avez découvert cette association?
Alors moi j'ai 26 ans quand j'apprends que je suis séropositif, quand je fais le test. Et puis en 89-90, alors au début c'est vrai qu'on nous disait non mais peut-être que vous êtes juste séropo, mais que vous avez peut-être juste les anticorps, vous n'êtes pas malade, etc.
Ah, les porteurs sains,
les porteurs sains, voilà. Et donc on était dans une période entre 85 et effectivement le début des années 90 où on avait tendance à minimiser, les médecins avaient tendance à minimiser, l'État avait tendance à minimiser La gravité. Et quand j'ai vu mes deux meilleurs amis, j'avais déjà pas mal d'amis qui étaient morts, mais un peu lointains, et mes deux meilleurs amis avec qui vraiment j'avais fait le test d'ailleurs, et qu'on avait découvert ensemble qu'on était séropo, bah quand je vois qu'ils meurent, je me dis, bah je suis le prochain sur la liste, donc là il faut que je fasse quelque chose. Je pars à New York avec une amie journaliste et pour je ne sais pas très bien quoi, mais pour me dire qu'au moins dans les quelques mois qui me restaient à vivre, je ferais quelque chose, c'est-à-dire d'aller à New York, de vivre pleinement cette ville que j'adorais, etc. Et puis c'est là que je découvre l'association ACT UP. J'avais entendu parler d'ACT UP via la conférence de rédaction à France 2, où le rédacteur en chef de l'époque, je ne citerai pas son nom, lui dit « Ah, oh, mais c'est quoi encore cette histoire de PD? Est-ce que c'est vraiment intéressant ?» et voilà, donc moi j'avais rien trop dit à l'époque, j'étais reporter à France 2 donc, mais... Et du coup, je m'engage vraiment à fond dans ACT UP New York, la commission média, les échanges de seringues dans les quartiers. Et je découvre surtout la dimension politique de l'épidémie. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, l'homophobie, le fait que voilà, on désignait les malades comme des victimes. D'ailleurs, c'est vrai que c'est le mot que vous avez parfois employé, qui est un peu problématique, parce que justement, on s'est toujours battu pour faire comprendre qu'on n'était pas des victimes, mais qu'on était des personnes vivant avec le virus, ou personnes touchées.
Victimes d'une maladie, rien d'autre.
Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important, c'est clair. Et c'est vrai que, voilà, donc je découvre aussi tous les mécanismes, finalement, de discrimination qui font que cette maladie prospère, en fait. Et quand je rentre à Paris, je m'engage naturellement. Alors, la première fois, c'est je fais un reportage pour France 2 et j'interviewe Didier Lestrade. Et le lendemain ou le surlendemain, je vais à ma première réunion d'ACT UP.
Qu'on soit bien clair, vous n'êtes pas victime de votre mode de vie, vous êtes victime d'avoir une maladie.
Oui, d'accord. Mais c'est vrai que
être malade, c'est victime de quelque chose. Voilà.
Oui, mais c'est vrai que là, ça prenait une dimension.
D'accord.
Parce que voilà, c'était utilisé aussi par les gens qui voulaient
détourner, mais qui détournaient le mot. Voilà.
Parce que puis il y avait cette idée de passivité, si vous voulez. Alors que ce qu'on a montré et ce que montre ACT UP,
on voit effectivement le contraste
dans ce que vous avez fait. Je voulais vous remercier et vous, votre équipe, pour avoir si bien relaté tout ça. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est toute cette histoire. Mais quand on entend les deux personnes qui témoignent avec cette difficulté, et c'est vrai que c'est difficile, que que l'amour était difficile, mais il y avait un côté tragique et il y avait un côté effectivement victimaire un petit peu, et que nous on voulait renverser ça, on voulait montrer que non, on était debout, comme vous l'avez dit, on se couche pour montrer les malades du sida et les morts du sida, mais on se relève et on continue à se relever.
Mais dites-moi, la France était si en retard que ça? Bon, alors, par rapport aux États-Unis, c'est clair, on l'a dit, mais par rapport à ses voisins européens?
Ah oui, c'est très clair. Bah, les Anglais, par exemple, font vraiment des campagnes choc dès 1985 voilà, l'effet est immédiat. Et puis surtout, les Anglais mettent en place dès 1985, par exemple chez les toxicos, des mesures, y compris même des mesures de distribution d'héroïne médicalement assistée, de distribution de seringues. J'avais fait un reportage qui montrait qu'entre Marseille et Liverpool, donc pour France 2 toujours, entre Marseille et Liverpool, il y avait une différence énorme dans les contaminations. Ça allait de 1 à 100 parce que justement, dans ces villes où il y avait une forte présence des usagers de drogue, eh bien le gouvernement ou l'État avait d'un côté mis en place ce qu'on appelait des mesures de réduction des risques, très pragmatiquement, sans se dire, et en plus ça limitait aussi la violence liée justement au trafic de drogue, alors que, donc ça c'était à Liverpool, et à Marseille c'était totalement l'inverse, et c'était un maire qui était complètement à la masse, qui était complètement ignorant de toutes ces questions, alors qu'effectivement toutes les pharmacies refusaient, même si vous l'avez dit, il y avait la vente libre des seringues, les pharmacies, une sur trois, voire deux sur trois, refusaient de vendre des seringues aux toxicomanes. Enfin, on était quand même, et ça c'était encore 80, oui, de mémoire, c'est 91, c'est un des derniers reportages que je fais pour Envoyé Spécial, 91. Mmh. Et pour vous dire les choses, à l'époque, on invitait les gens sur le plateau, les journalistes qui faisaient le reportage. On m'a pas invité, on invitait un type, François Curtet, de mémoire, et ce type disait, non, mais vous comprenez, il y a une espèce de rite des toxicomanes à partager leurs seringues, etc. Ça ne marchera pas, la réduction des risques en France. Dès le jour où on a mis ça en place, les contaminations ont plongé. Il y a quasiment plus de contamination chez les toxicos.
Christophe Martel, vous allez bien, manifestement, aujourd'hui.
Oui, ça va, oui. Je prends 8 gélules par jour, quand même, j'ai noté. Ouais. Plus celle pour le cœur, parce que voilà, il y a des petits soucis de cœur. Mais ça, c'est normal à 58 ans. Enfin, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, ça arrive de faire des problèmes cardiaques. Mais oui, oui.
Alors, je fais ce constat qui est en forme de question. Votre entrée chez ACT UP, j'imagine, a été un soutien en même temps. Un vrai soutien. Est-ce que le fait que vous alliez bien aujourd'hui, le fait que ACT UP ait existé, que vous y étiez vraiment au sein de cette action-là, ça vous a aidé à aller bien?
Évidemment, ça m'a aidé. Moi, pendant très longtemps que ACT UP, c'est le meilleur antirétroviral qu'on ait trouvé, et que notamment, effectivement, le fait de devenir expert, le fait de devenir d'avoir les informations, c'est vrai que je courais après les essais thérapeutiques, j'essayais toutes les drogues. C'était pas très intéressant à l'époque parce qu'on prenait ça en monothérapie, donc on devenait très vite résistant à ces drogues, mais au moins on était dans l'action et on essayait avec les médecins, hein, qui étaient finalement dans la même panade que nous, on essayait d'avancer et d'avoir les meilleures informations et les traitements. Donc forcément ça m'a aidé. Et puis quand vous êtes malade et que justement on vous envoie toujours ces trucs négatifs de victimes, etc., et que vous êtes dans la rue et que vous manifestez et que surtout il y a ça dans votre corps, ça vous aide. En fait, quand on sortait d'une réunion, d'une action, moi j'avais l'impression d'avoir gagné plein de T4, hein, les cellules immunitaires, et puis surtout l'idée de que ça a un impact au sens, ça faisait avancer des choses, et ben ça vous donne un sacré coup de boost.
Bien sûr, j'imagine. Alors, ACT UP, excellent rétro-antiviral, vous êtes allé pousser la porte du médicament, si j'ose dire, Annaëlle Verzo, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes allé à la dernière réunion hebdomadaire d'ACT UP, hein, ces réunions ont lieu tous les jeudis soirs de 19h à 22h, c'était jeudi de la semaine dernière,
et alors ça s'est passé dans une autre salle que d'habitude, parce que ACT UP se relève encore. Figurez-vous que depuis la sortie du film 120 battements par minute, eh ben, il y a plein de nouveaux adhérents. Vous allez d'ailleurs entendre tout à l'heure Lou, par exemple, qui est arrivé à ACT UP il y a 3 semaines. Il y avait donc trop de monde pour le petit local d'ACT UP, donc la réunion s'est passée au cinéma Le Luminor, dans le Marais.
Voilà, dans la salle, il y avait une cinquantaine de personnes, donc, et parmi les sujets abordés, celui des pharmacies, justement, qui ne respectent pas la loi, et ça, c'est un des combats actuels d'ACT UP.
Bonjour. Alors, le projet, il est porté par Guillaume, le projet d'Esterivox, donc vas-y, Guillaume, c'est l'info.
En fait, moi, j'ai remarqué que chaque pharmacie, normalement, c'est dans la convention et normalement, c'est la loi qui l'oblige. C'est que chaque pharmacie sont dans l'obligation de vendre une Steribox à chaque toxicomane.
Usager de substance, pardon.
Je suis désolé. Mais, donc, je vais dire usager. Donc... Et du coup, la plupart des pharmacies en France refusent de le faire.
Pour les auditeurs, c'est quoi les Sterilbox ?
Les Sterilbox, en fait, c'est juste une petite boîte qui est vendue par les pharmaciens où dedans on peut trouver un kit avec deux seringues, deux coupelles pour pouvoir mettre son produit. Il faut que tout soit stérile, en fait, et justement, en fait, c'est aussi vendu avec deux préservatifs parce que pas mal, en fait, dans la communauté gay, prennent de la drogue pour faire l'amour et souvent oublient de mettre le préservatif. Donc là, vraiment, il y a le préservatif, il y a tout. Donc, voilà.
Merci beaucoup.
C'est pas parce qu'il y a une salle de consommation que les pharmacies doivent se dédouaner de leur mission. Et ça, je pense que c'est important en tant qu'ACT-UP de le redire et de le remarteler. Et justement de dire que la salle de shoot, elle est pas la salle de consommation, pardon, elle n'est pas ouverte tout le temps. Tu t'injectes le matin, le midi, le soir, la nuit. S'il n'y a pas de pharmacie qui distribue le matos, tu t'injectes des merdes, en fait. Enfin, juste des maladies, quoi.
En gros, on a décidé de faire un tour des pharmacies de Paris. Il y en a environ 1000 pour voir qui distribue ou non des Sterilbox.
Et du coup, faire sur le trottoir des grands pochoirs avec une seringue. Ou alors cette pharmacie...
ne distribue pas de Sterilbox.
Ou donne le sida aux usagers. Enfin, des trucs vraiment très, 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 très chocs.
Alors les clac, 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 comme ça, ce sont des claquements de doigts pour dire qu'on est d'accord.
Ah, mais c'est Guillaume, vient de dire Christophe Marty. Effectivement, vous avez rencontré Guillaume Anel, il est auteur, metteur en scène, il milite à ACT-UP depuis 2 ans.
Voilà, Guillaume est malade, il est séropositif depuis 15 ans, il est sous traitement, doit prendre 2 pilules par jour, le Truvada et le Tivicay, et il doit faire une série de 12 prises de sang tous les 3 mois.
Alors les réactions aux médicaments étant différentes selon chacun, eh bien Guillaume a dû changer 4 fois de traitement avant qu'on trouve le bon.
Mon premier médecin, moi, que j'ai eu sur Paris, me donnait un médicament qui me faisait faire des cauchemars, mais des cauchemars horribles, que je me souviendrai toute ma vie. Que si j'ai
envie... C'était quoi le cauchemar ?
Après, c'est tellement horrible que je ne peux pas en parler. C'est que je voyais ma mère en train de mourir, c'est des cauchemars très, très traumatisants. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup de rouge, beaucoup de sang. Il y a des médicaments aussi qui... quand on va se lever la nuit juste pour aller aux toilettes, et ben en fait on ne peut pas se lever parce que le médicament agit et du coup nous fait tourner tellement la tête qu'on ne peut même pas marcher. Donc ça c'est pour toute la nuit, ça s'arrête le matin. Donc c'est un médicament qu'il y a à prendre le soir avant de se coucher.
Je sais pas, c'est indiscret comme question, mais comment tu l'as attrapé ?
Je veux pas aborder cette question, je suis désolé, c'est très traumatisant pour moi d'en parler. C'est encore, je suis en psychothérapie, donc je suis encore en train d'en parler. Donc voilà, ça a été un gros choc pour moi, même si j'ai 37 ans et je l'ai attrapé, j'avais 22 ans. Voilà.
Voilà. Tu vis où aujourd'hui ?
Je vis sur Paris, à Belleville, grâce à ACT-UP. Puis pendant 3 ans, j'ai un peu vécu chez des amis, tout ça, puisque j'étais à la rue. J'ai été rejeté par pas mal de mes amis quand ils ont appris que j'étais séropositif.
Et tes parents ?
Mes parents le savent. Mon père l'a très mal pris. Après, c'est... Voilà, maintenant, avec le temps, les blessures, on va dire, cicatrisent, mais ça reste quand même une cicatrice à porter.
Alors ce qui est surprenant, on est quand même en 2017, c'est que le nombre de nouvelles contaminations en France n'a pas baissé depuis 20 ans. Il y a toujours aujourd'hui entre 6000 et 7000 nouvelles contaminations par an.
Et par contre, ce qui augmente, c'est les contaminations chez les jeunes de moins de 25 ans.
Guillaume et Lou, c'est un nouveau militant de 23 ans, eux croient savoir pourquoi.
Parce que je pense que déjà, il n'y a pas assez de prévention. C'est aussi lié aux pratiques. Maintenant, ce qui est à la mode dans la communauté gay, en fait, c'est de faire des plans cul et de se droguer en même temps. Donc, le problème, c'est que quand on prend des drogues qui vont te faire durer 4 jours en train de faire l'amour à un mec, tu vas pas voir le temps passer. Forcément, tu vas oublier la capote.
Souvent, dans les plans cul, tu as en gros des mecs vraiment jeunes qui connaissent pas trop...
Donc ils vont avoir tendance à dire oui à un peu tout ce qu'on leur propose, genre chum, cristal.
Pardon, mais ça veut dire quoi ça?
Alors chum, c'est des plans drogue, le cristal c'est une drogue qui est très dangereuse en gros.
Mais toi par exemple, t'as 23 ans, ouais. Et t'as déjà fait ces plans-là
Alors perso, je refuse. Quand je vois chum ou cristal ou des trucs comme ça...
Sur internet,
voilà,
sur les
sites, sur les... Je passe au profil suivant et vraiment ça m'intéresse pas. Internet incite à certains comportements, en effet, quand on rencontre en bar aussi, parce qu'il y a aussi ça qui...
Dans
qui
un bar.
Rencontre dans les bars, dans les boîtes et tout ça. Des fois, on est aussi sensible à la bêtise. Moi, au départ, c'est sûr que la première fois qu'on m'a dit « fellation sans capote », direct, j'y suis allé, j'ai fait des conneries.
Comment tu t'appelles?
Lou.
Act Up est là et va continuer à se battre. On est des combattants, voilà.
Mais oui, Christophe Martin, l'esprit combattant, il est toujours là. C'est vraiment la carte d'identité de l'empreinte d'Act Up. On a entendu le témoignage de Guillaume tout à l'heure, malade depuis 15 ans. Il parle de ses cauchemars, du poids, des traitements. Quel est le quotidien d'un malade aujourd'hui? Sachant qu'au tout début, on se souvient de ces quantités incroyables de médicaments qu'il devait prendre.
Oui, alors aujourd'hui, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. En tout cas, en Europe, il faut rappeler qu'il y a la moitié des gens dans le monde qui devraient avoir accès au traitement, qui n'ont encore pas accès au traitement. Donc, il y a encore des centaines de milliers de morts tous les ans. Mais en France, bon, voilà, Guillaume, il a vécu ce qu'il a vécu. Il faut quand même rappeler que le traitement aujourd'hui marche. Le traitement est vraiment beaucoup plus facile à prendre. Et surtout, une chose très importante, quand vous êtes séropo en traitement, vous ne transmettez plus le virus. U égale U.
C'est fondamental ce que vous dites.
C'est une révolution, et pour les malades, parce qu'on n'est plus, comme vous le disiez tout à l'heure, des bombes,
oui.
et pour l'entourage, en disant, mais écoute, je prends un traitement, je suis responsable de ma santé, donc voilà, il n'y a plus de risque de transmission. Et dans les couples, c'est très important, parce que le préservatif reste effectivement un outil très important, mais vous voyez, sur des longues durées, quand il y a des envies d'enfants, dans des couples hétéros, etc., c'est vrai qu'on n'est plus dans cette image stigmatisante du malade porteur d'un truc qui fait peur, etc. Et U égale U, detectable, untransmittable, c'est le message qu'il faut marteler aujourd'hui. Et comme la PrEP, le traitement préventif, qui permet aussi de réduire quasiment à zéro le risque de transmission. Donc aujourd'hui, la prévention a changé complètement de visage, et il faut vraiment que les séropositifs, il faut le dépistage, donc que tous les séropositifs qui l'ignorent se fassent dépister pour se faire traiter, parce que pour eux c'est bon, pour leur partenaire c'est bon, la chaîne de transmission est cassée. Et puis, on peut aussi prévenir le virus autrement que par la capote.
Mais est-ce que ces messages, ces vrais messages d'espoir et de réalité, il n'a pas aussi avoir un effet pervers, pardon, c'est qu'on baisse la garde en se disant c'est moins terrible qu'avant, parce qu'avant on avait le sida, on en mourait forcément. Enfin,
la garde, elle a déjà baissé. Mais ceux qui baissent la garde, c'est les pouvoirs publics. Macron n'était pas présent à la grande conférence mondiale sur le sida qui a eu lieu à Paris en juillet. Il n'a aucune excuse. C'est une maladie qui touche non seulement en France, mais dans le monde entier. Je rappelle quand même 40 ou 50 millions de personnes touchées. Donc voilà, la garde, elle, c'est d'abord les pouvoirs publics qui doivent aussi transmettre ce type de message. On les attend encore, ces messages.
Bon, en attendant, nous on le fait.
Oui, c'est ce que je voulais. Toi, je vous remercie en plus de l'avoir fait.
Mais avec plaisir. Au revoir, bon. Christophe Martet.
Merci, bonne journée.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire d'Act Up, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Philippe Duclos, qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'exfiltration de Yasser Arafat de Tripoli au Liban. C'était en 1983.